Bonsoir. La coalition des 33 ONG congolaises de défense des droits de l'homme dénonce les intimidations et menaces dont sont l'objet les leaders du G7 suite à la lettre qu'ils ont adressée au président de la République. En réaction, le bureau politique de la majorité présidentielle rejette ces accusations qu'il qualifie de procès d'intention. Quelle équipe faire de cette situation? Nous en parlons avec Oscar Rachidi Akida. Il est président de la Ligue congolaise contre la fraude de l'ICOF en sigle. Il est membre de la coalition des 33 ONG. Bonsoir Oscar Rachidi Akida.
Bonsoir.
Gaston Moussemena, député national de la majorité présidentielle. Il est secrétaire exécutif national du PPRD. Bonsoir honorable Gaston Moussemena.
Bonsoir messieurs les journalistes.
Et professeur Félicien Kabamba, il est professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
33 organisations de défense des droits de l'homme dénoncent les intimidations et menaces dont sont victimes les groupes de cette partie exclus de la majorité présidentielle. Ces ONG ont présenté une série de faits étayant ces menaces et intimidations. Mary Franklin Luchaka pour les détails.
D'entrée de jeu, le collectif des ONG congolaises constate que les policiers commis à la sécurité de tous les signataires de la lettre du 14 septembre dernier ainsi qu'à leur résidence ont été retirés sur ordre du ministre de l'Intérieur sans préavis. Cette structure affirme que le député Charles Mwandontsimba a dû démissionner de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale après que son bureau ait été scellé dans la matinée du 18 septembre. Dans la foulée, la résidence du député Christophe Lutundula a été encerclée par la police pendant plusieurs heures sans donner de motifs valables. D'après le communiqué des 33 ONG, certains membres de la majorité présidentielle usent de leur position officielle pour exercer des fortes pressions sur les directoires des partis signataires de la lettre du 14 septembre en vue d'obtenir des sanctions contre leurs leaders ou d'y provoquer des dissidences. Fort de ce constat, les ONG condamnent fermement toute utilisation abusive des positions officielles par certains membres de la majorité présidentielle pour régler des comptes à leurs adversaires politiques. Ils condamnent aussi le retrait sans préavis des policiers chargés d'assurer la sécurité des signataires et leur résidence et l'encerclement de la résidence du député Christophe Lutundula. Il s'agit là des cas d'abus et de détournement des pouvoirs inacceptables en démocratie, insiste le collectif. En réaction, le bureau politique de la majorité présidentielle balaie ces accusations qu'il qualifie de procès d'intention. Pourquoi serait-il victime d'intimidations que ne subissent pas ceux qui offensent le président Joseph Kabila par des propos outranciers? S'est interrogé le ministre Lambert Mende.
Merci Berry Franklin Luchaka. Gabriel Kutiumwa Kumwanza, président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dénonce le retrait depuis bientôt 4 jours de sa garde rapprochée. S'est confié hier dimanche à Radio Kapi, Gabriel Kutiumwa Kumwanza affirme que sa sécurité est menacée. Il en appelle donc au bon sens des autorités du pays. Il l'a dit au micro de Colin Djuma Moussampo.
Je suis encore en fonction président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les commandants qui sont venus là-bas ont dit que le chef de l'État les a envoyés pour enlever la garde chez moi. C'est pour ça que je le dis en face du monde. Je remets ma sécurité entre les mains du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui a donné l'ordre qu'on enlève les policiers chez moi. Tout ce qui peut m'arriver, c'est ça, l'opinion doit le savoir. Tout simplement parce que j'appartiens au G7. Le G7 qui lutte et qui milite pour le respect strict de notre loi fondamentale.
À l'inspection provinciale de la police à Lubumbashi, l'on signale que l'ordre de retrait des policiers est venu de la haute hiérarchie. Oscar Rachidi Akida, je rappelle que vous êtes président de la Ligue congolaise contre la fraude de l'ICOF en sigle. Vous êtes aussi membre de la coalition des 33 ONG. Vous dénoncez le harcèlement dont sont l'objet les leaders du G7. Quel est l'acte ou quels sont les actes qui ont été exactement posés et qui peuvent justifier ces harcèlements que vous dénoncez?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'intérêt que vous avez porté à ma modeste personne. Et ici, c'est une occasion aussi que j'ai saisie pour saluer tous les auditeurs de la radio Okapi. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire que nous, organisations, nous les 33 organisations des droits de l'homme, nous sommes très préoccupés par les actes de harcèlement, comme on vous a dit, commis contre les membres de G7. Pourquoi ? Parce que depuis qu'ils ont adressé leur lettre au président de la République, c'était le 14 septembre 2015, par laquelle, cette lettre, ils ont demandé le respect de la Constitution en organisant les élections législatives et présidentielles dans les délais prévus. Parce que pour nous, organisation de la société civile, nous estimons que les élections essentielles actuellement, ce sont celles-là. C'est-à-dire les élections présidentielles et législatives nationales. Mais depuis le 16 septembre 2015, ces membres signataires sont victimes des actes d'intimidation, de menaces que nous condamnons fermement. Et en voici quelques exemples. Ici, je dois vous dire d'abord, il y a eu retrait sans préavis des policiers commis à la sécurité des membres des G7 à leur résidence. Plus grave encore, même pour le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, vous venez de l'écouter, il est en fonction. Et ce président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Tungwa Kumanza, a droit de la police, de la garde. Et pourquoi on doit retirer cette police ? Or, la police, messieurs les journalistes, vous le connaissez très bien, c'est une police qui appartient à la République démocratique du Congo et non à une famille politique, moins encore à une personne ou un individu. Donc c'est une police qui est là pour sécuriser l'ensemble de la population congolaise. Ensuite, messieurs les journalistes, il y a harcèlement. Pourquoi ? On a encerclé la résidence du député Christophe Lutundula. Vous avez suivi, et nous avons suivi aussi à la radio Okapi. Et la mise sous scellé de son bureau, du député Charles Mwando Simba, vous avez aussi suivi ça, avant que ce dernier ne puisse déposer sa démission. Il y a encore, je vais rigoler, pourquoi ? Parce que il y a le démontage de matériel de la radio du député national Christophe Lutundula. C'est à Katokokombe, le 17 septembre 2015. Pourquoi on a démonté le matériel de cette radio, messieurs ? J'ai continué encore à étayer d'autres éléments. Il y a eu des pressions que certains officiels de la majorité présidentielle exercent sur des membres des partis politiques des G7. Pour les pousser à désavouer leur leader. Vous les suivez. Nous suivons toutes les déclarations tonitruantes faites par certains membres qui se disent contre leur leader des partis politiques. Et là, la fameuse, je vous dirais que la fermeture de tous les accès donnant au siège du parti UNAFEC, c'était le dimanche dernier. Vous avez suivi. Et tout ça, messieurs les journalistes, je crois que ce sont des éléments suffisants, qui prouvent à suffisance qu'il y a harcèlement. Et il y a aussi la décision qui vient d'être prise au niveau du Haut-Katanga par le maire de la ville de Lubumbashi, parce que semblait-il qu'ils étaient dans une réunion du conseil de sécurité urbaine, ils ont pris la décision d'interdire toutes les manifestations publiques à Lubumbashi. Et je crois que cette décision a été prise et annoncée curieusement, la veille de l'arrivée des députés Charles Mwando Simba ici à Lubumbashi.
Merci.
Moi, je pense que, monsieur, ce sont des éléments très importants et suffisants qui ont été étayés par moi pour prouver à suffisance qu'il y a harcèlement de certains membres des G7.
Oui, monsieur Rachidi Akida, vous avez évoqué un certain nombre d'effets, notamment les retraits sans préavis de la garde et rapprochés de ces personnalités, l'encerclement, n'est-ce pas, de la résidence de monsieur Lutundula, la mise sous scellé du bureau du député Mwando Simba, le matériel démonté de la radio du député Christophe Lutundula. Est-ce que vous avez été contacté par ces personnalités concerner ces victimes?
Mais non. D'abord, je dois vous dire que nos organisations sont disséminées à travers la République démocratique du Congo et à travers le monitoring que ces organisations sont en train de faire. Ils nous ont envoyé tous les éléments pour voir que ce que je viens de vous dire ici, ces éléments sont exacts. En plus, nous avons effectivement contacté les intéressés, notamment le député national, M. Christophe Lutundula. Et quant au président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kingwa Kumanza, vous venez de le suivre vous-même sur le micro de votre radio. Il a dénoncé justement cet harcèlement. Il est en fonction, président de l'Assemblée provinciale. Qui peut ordonner que sa garde puisse être retirée? En fonction de quel texte juridique? Et pourtant, nous savons bien que la police, l'armée, appartiennent à la République démocratique du Congo. Ils ont comme mission de défendre, de protéger les citoyens et leurs biens. Et donc, Kikumba Kumanza n'est plus citoyen congolais.
Oui,
parce qu'il a dénoncé, il a demandé seulement qu'on puisse respecter la Constitution en organisant les élections présidentielles, législatives nationales, dans les délais constitutionnels.
Monsieur Rachidi.
Pour ça seulement, il a péché et qu'on doit lui arracher la garde.
Monsieur Rachidi, brièvement, vous dites que vous avez rencontré certaines de ces personnalités. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Est-ce qu'elles ont tenté de rédiger une plainte à déposer au cours des tribunaux?
Et c'est lui qui a donné l'ordre que toutes les manifestations ne puissent se tenir ici à Lubumbashi. Donc okay. Les éléments sont légion, monsieur, qui prouvent à suffisance qu'il y a harcèlement.
Merci, merci, monsieur Rachidi. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Gaston Moussemena, député national de la majorité présidentielle, vous êtes secrétaire exécutif national du PPRD. Comment réagissez-vous à cette dénonciation de la coalition des 33 ONG sur les harcèlements dont sont l'objet les leaders du G7?
Je suis surpris, messieurs les journalistes, d'apprendre aujourd'hui qu'il y a harcèlement contre les personnalités du G7 qui ont décidé délibérément de quitter leurs fonctions. Je me demande aussi la signification que chacun donne au mot harcèlement.
Elles ont délibérément décidé de quitter leurs fonctions ou elles ont été poussées à les faire?
Comprenez ça comme vous pouvez, mais nous avons une charte. Nous avons des indications claires sur les comportements à adopter et ces personnalités expérimentées ont décidé délibérément de s'écarter des prescrits de notre charte. Ils savaient donc qu'ils s'exposaient et ils ont pris en âme et conscience cette décision de le faire. Quand bien même ils ont été prévenus quelques jours avant, ils l'ont fait et ils ont accepté de quitter. Lorsqu'on leur a dit tout simplement qu'ils se sont écartés, ils savaient que c'était un acte responsable, nous disons même prémédité, et ils ont tiré toutes les conséquences. Mais revenons à ce que notre frère est en train de parler. Il parle d'harcèlement. Je ne sais pas si nous avons la même compréhension du mot harcèlement. Acceptons que ce qu'il dit, c'est ça harcèlement, le retrait de la police. J'aimerais quand même préciser que c'est vrai que la police a pour rôle la protection des biens et des personnes. La police a aussi rôle la préservation de l'ordre public. C'est ce que notre ami devrait savoir. Et lorsque les décisions politiques sont prises, lorsqu'il y a changement de personnalité au niveau des responsabilités qu'ils occupaient, la police prend toujours des mesures conservatoires pour éviter les détournements des biens de l'État. Ça s'est toujours passé dans ces pays et ça se passera encore parce que les biens publics ou les biens de l'État doivent être protégés par cette même police qu'il décrit aujourd'hui.
Et donc, vous justifiez les retraits sans préavis de ces policiers?
J'aimerais vous dire tout simplement que ce sont des mesures conservatoires qui ont été prises pour protéger les biens de l'État parce que vous connaissez dans quel contexte ces personnalités ont été amenés à quitter les responsabilités. Or, les biens de l'État doivent être protégés, préservés et l'ordre public aussi ne doit pas être troublé.
Il y a des observateurs qui disent que de la même façon, ces policiers avaient été, ces gens avaient été, n'est-ce pas, prévenus pour avoir ces policiers comme garde. De la même façon, on devait les prévenir, n'est-ce pas, quand on a pris la décision de retirer cette garde rapprochée.
Il y a tout simplement une exagération. Ils ont des gardes encore jusqu'à ce jour. Ils parlent de leur résidence. Ils parlent de c'est pas des bureaux qui ont été scellés. Alors que moi, je viens du palais du peuple, le bureau du vice-président est encore occupé par certains de ses collaborateurs. Il y a tout simplement de l'amalgame.
Mais le jour où il avait démissionné, on dit que son bureau était scellé le matin.
Je continue à vous dire que les conditions dans lesquelles ces personnalités ont été amenées à prendre cette décision avaient poussé la police à prendre des dispositions conservatoires. Ils ont occupé des fonctions importantes, ils ont des biens de l'État qu'ils étaient en train de garder, ils n'ont pas quitté ce poste de gré, je voulais dire, ils ne l'ont pas quitté par plaisir.
Et le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, M. Gabriel Kyungwa Kumwanza, que nous venons d'écouter, lui, il est encore en fonction, il est président de l'Assemblée provinciale.
Je suis surpris d'apprendre qu'un problème pareil s'est passé au niveau de Katanga. Je suis à Kinshasa où on a beaucoup parlé de Christophe Lutundula, une personnalité éminente, juriste de surcroît, qui sait se défendre, qui sait s'exprimer, qui sait parler, mais qui n'a encore rien dit. Mais que j'attends des gens défendre Lutundula, qui a tous les moyens de se défendre, qui a tous les moyens de dénoncer quoi que ce soit, c'est surprenant et je suis convaincu que c'est tout simplement une exagération. Ce qui s'est passé au Katanga, je n'ai pas encore toutes les données, je viens d'apprendre avec vous ici, je n'ai pas les moyens de comprendre exactement ce qui s'est passé, mais je voulais m'atteler sur le cas de Lutundula que je considère comme exagération tout simplement.
Mais le bon sens, peut-être qu'en politique il n'y a pas de bon sens, mais le bon sens serait que ces gens soient prévenus quand la hiérarchie prend la décision de retirer la garde, qu'on puisse les prévenir pour leur dire, écoutez, nous prenons la décision de retirer les gens qui sont commis à votre sécurité. Le bon sens, n'est-ce pas?
Je vous confirme qu'on ne retire pas tous les éléments au même moment. On réduit. Ce sont là ce que je vous dis, ce que j'appelle les mesures conservatoires. Et telles que les choses se sont passées, la façon dont ils ont pris la décision de quitter ces postes, on ne devrait que faire ça et on continuera à le faire.
Oui, parce que déjà, on apprend qu'aujourd'hui à l'Équateur, et tous les membres des partis du groupe de ces partis politiques, n'est-ce pas, qui ont adressé la lettre au chef de l'État, tous les membres de ces partis et qui sont restés fidèles à leur leader, ont vu aussi leur garde approcher, retirer sans préavis. Apparemment, ça va évoluer ainsi, ça va s'étendre à toute la République.
Pourquoi on disponibilise la garde à certaines personnalités? C'est lorsqu'ils occupent des fonctions importantes. Lorsque ces mêmes personnalités n'occupent plus ces fonctions, croyez-vous qu'il faille leur accorder la garde ou leur laisser la garde? Non, monsieur. Lorsque vous cessez d'exercer une fonction importante, on doit démobiliser ces éléments et les retourner à la centrale.
Ces ONG, ces 33 ONG de défense des droits de l'homme, accusent certains membres de la majorité présidentielle d'exercer des pressions à l'endroit des membres de certains partis politiques afin que ceux-ci désavouent leurs leaders et provoquent ainsi des dissensions au sein de ces différents partis politiques.
Messieurs les journalistes, nous sommes une famille politique, nous avons une charte, nous étions ensemble. Brusquement, certains d'entre nous ont adopté un comportement qui s'écarte de notre charte. Nous avons décidé de nous réunir pour que nous nous parlions de yeux à yeux, pour que nous nous parlions en face et rappeler à chacun ses responsabilités et demander à chacun de renouveler parce qu'il y a un cas de flottement, de renouveler son attachement à l'autorité morale, son attachement à la majorité présidentielle. Voilà ce qui a été fait. Si c'est ça qui est considéré par d'aucuns comme harcèlement ou intimidation ou même menace, c'est surprenant parce que nous sommes une famille politique. C'est la discipline qui doit nous gérer. Et au regard de cette discipline, nous demandons à chacun de se déterminer face à une situation claire. Chacun doit, en âme et conscience, agir. Soit il reste au sein de la majorité présidentielle, soit il décide de quitter la majorité présidentielle et nous prenons acte. Nous ne forçons personne parce que nous sommes un état de droit. Chacun est libre de s'exprimer.
Vous ne poussez pas certains cadres de certains partis politiques à pouvoir désavouer leurs leaders?
Pourquoi les faire? Parce qu'ils sont des responsables. Au niveau des responsables, quelqu'un est député national. Pensez-vous que celui-là, vous allez le pousser à désavouer quelqu'un? Vous lui demandez de choisir. De toute façon, vous devez savoir, lorsqu'on doit choisir, ça signifie qu'on doit abandonner d'autres positions. Donc, demander à quelqu'un de choisir librement, ce n'est pas l'obliger à quitter son, son autorité morale. Soit il choisit l'autorité morale, il part avec lui, soit il choisit de rester en famille et il reste avec nous et il respecte la charte de la majorité présidentielle.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Votre analyse par rapport à ces communiqués rédigés par ces 33 ONG de défense des droits de l'homme?
Je voudrais d'abord commencer par saluer mes co-débatteurs, l'honorable Moussemena, ainsi que Oscar Rachidi Akida, qui est un éminent membre de la société civile. Je voudrais reconnaître la bravoure de ces organisations. C'est des organisations qui jouent un rôle extrêmement important, parce qu'il existe des contrepoids institutionnels, qui sont le Parlement, les cours et tribunaux, mais il existe également des contre-pouvoirs non institutionnels qui ne sont pas dans les appareils de l'État que représentent les organisations non gouvernementales. Et il me semble bien que ces organisations jouent un rôle très important, non seulement pour ceux qui sont dans l'opposition, mais aussi pour ceux qui sont au pouvoir. Ce rôle devient de plus en plus grandissant au fur et à mesure que nous assistons au pays à des phénomènes de violence qui, finalement, concerne toute la population. Je voudrais, une fois de plus, être très reconnaissant vis-à-vis de ce groupe et les encourager à continuer, parce que ces actes sont des actes de bravoure, mais sont aussi des actes de démocratie. Il y a une démocratie qui se construit non seulement par les contre-pouvoirs institutionnels, mais aussi les contre-pouvoirs qui ne sont pas dans les institutions.
Professeur, intimidation et menaces à l'endroit des leaders du G7, une telle situation n'était-elle pas prévisible?
Oh oui, mais elle a été assez brusque. Parce qu'en matière de démission, il y a une procédure. Quand vous écrivez une lettre de démission, vous n'êtes pas directement en dehors. Une lettre de démission, quand on l'écrit, on attend une réponse de la hiérarchie. Saviez-vous que vous pouvez démissionner et la hiérarchie dit non, vous restez. Je n'accepte pas votre démission. Et donc, une fois qu'une personne a démissionné, on ne peut pas directement lui retirer tous les avantages dus parce que l'autorité n'a pas encore notifié la personne. Il faut que l'autorité réponde, il faut que la hiérarchie réponde. Et d'ailleurs, tant que la personne, tant qu'on n'a pas pris des mesures pour la suppléance de la personne, elle continue à jouer le rôle en attendant. Donc, l'argument de protection des biens publics ne peut pas, à ce moment, intervenir. À moins qu'on me dise, évidemment, que juste après la démission, eh bien, tout était déjà fait pour que la personne n'occupe plus, donc ne continue. Mais, d'après ce que je sais, quand une personne écrit la lettre de démission administrativement, c'est un acte administratif. Et l'attend. Que s'est-il passé après? Je ne sais pas.
Et donc, la procédure devait être respectée. Et, professeur, lorsque des personnalités politiques sont l'objet de harcèlement, menaces, intimidations, et que cela est porté sur la place publique, le PGR, le procureur général de la République, ne peut-il pas se saisir d'un tel dossier et diligenter des enquêtes?
Bon, je ne connais pas si il a diligenté une enquête ou pas, dans le cas d'espèce, mais il me semble bien que par le passé, notre justice a eu beaucoup de lenteur à le faire, ou ne l'a pas du tout fait. Là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
Est-ce que ce n'est pas ce qu'on peut qualifier de passivité, n'est-ce pas, du PGR, qui a poussé, n'est-ce pas, ces ONG à pouvoir tirer la sonnette d'alarme?
Plutôt une faiblesse de la justice congolaise de se saisir de tels dossiers.
Les 33 ONG condamnent toute utilisation abusive des positions officielles par certains membres de la MP pour régler des comptes à leurs adversaires politiques et dénoncent l'encerclement de la résidence des députés Lutundula. Et comment peut-on politiquement justifier une telle attitude? Est-ce qu'en politique on peut justifier de tels actes?
Alors, difficilement, en tout cas difficilement, parce que Il y a le professeur Moïla Tchembe, quand vous lisez dans sa grande dans ses écrits sur l'État congolais, il présente l'État congolais comme étant le facteur d'insécurité. L'État congolais doit assurer la sécurité de tous les Congolais. Et à commencer par ceux qui occupent des positions importantes au niveau de l'appareil de l'État. Il me semble que dans le cas précis, ces personnes ont été surprises de voir que leur garde a été retirée, ont été surprises qu'en fait les avantages dont ils jouissaient brutalement et brusquement, sans avis, ont été retirés.
Et peut-on craindre que l'on tombe dans la chasse aux sorcières?
Bien. Est-ce que là, vous posez une question qui génère une autre question? Est-ce qu'on est protégé que quand on fait partie de la majorité? Dès lors qu'on quitte la majorité, on n'a plus le droit d'une protection. Et que, évidemment, dès lors qu'on ne fait plus partie ou qu'on n'est plus engagé dans la charte de la majorité, eh bien, on n'a plus droit à tous les avantages d'un Congolais. Je ne crois pas qu'on a droit à la sécurité, on a droit à tous ces avantages que ceux qui sont dans la majorité. Il y a à boire et à manger. Je crois bien qu'il y a tout un débat à mener sur le mode opératoire de la majorité et sur sa fonctionnalité.
On dit qu'en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Est-ce qu'une de tels actes à l'endroit de ces personnalités qui ont adressé la lettre au chef de l'État, ces actes ne peuvent pas être justifiés par une certaine classe, en fait une certaine école de sciences politiques? Parce qu'on dit qu'on ne se fait pas des cadeaux en politique.
Bon,
est-ce qu'à certains points de vue, on ne peut pas comprendre ces attitudes-là?
En fait, il y a, de mon point de vue, certaines contradictions au sein de la majorité, parce qu'au niveau de la majorité, on admet qu'il y a un débat en interne, et il me semble bien que ce débat en interne n'a pas été accepté pour cette question, et comme au niveau du pouvoir, on considère que le pouvoir se mange en entier, et que donc ceux-là n'ont pas voulu, évidemment, pour souscrire à ce principe-là, ils doivent être évacués. Ceux qui vont rester vont le manger en entier.
Monsieur Rachid Yakida, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Si l'on tient de Bukavu, la MP devrait éviter de pratiquer la politique du pire qui consiste à adopter des mesures nuisibles dans l'espoir d'en tirer plus tard un bénéfice. Les intimidations et menaces proférées contre les leaders du G7 pourraient compliquer la situation sociopolitique de notre pays, qui d'ailleurs est trop fragile. La MP devrait plutôt arrêter ces manœuvres dénoncées par le G7 et adresser à la population des messages d'espoir.
Monsieur Rachid Yakida.
Mais je pense que notre ami a abondé dans le sens que de notre communiqué, et je le félicite aussi. Ici, je voudrais dire que on ne peut pas démobiliser ou enlever tous les éléments commis à la sécurité des personnes sans leur accorder un délai raisonnable afin de leur permettre d'en organiser autrement. Et aussi, il est important que les membres de l'AMP cessent d'utiliser abusivement leur position officielle pour penser, punir ceux qui ne partagent pas leur point de vue, par exemple. C'est un abus. Hein? Je parlerai d'un abus ou un détournement de pouvoir, carrément. Je pense que c'est la réponse que je pourrais donner à notre ami et qui a donné d'ailleurs une intervention très pertinente.
Monsieur Rachidi Yakida, ces personnalités du G7, objet d'intimidation et menaces, ont-elles saisi les cours des tribunaux à travers une plainte en bonne et due forme?
Non, moi, je ne peux pas répondre à leur place. Nous, les organisations, nous avons constaté les faits et nous avons dénoncé. Quant à aller en justice, ça appartient, n'est-ce pas, aux membres des G7 de saisir les juridictions compétentes. Et nous en connaissons. Il y a déjà une procédure quant à fait. Hein. Moi, je pense que il leur appartient, eux, n'est-ce pas, de faire cette démarche. Pas nous, organisations. Mais il nous suffit tout simplement à nous de dénoncer. Et nous pourrons enfin les encourager à le faire parce que c'est dans leur droit, le plus légitime.
Monsieur Rachidi Akida, dans les deuxièmes paragraphes de votre communiqué, vous rappelez la démarche qui a consisté à adresser la lettre, n'est-ce pas, au chef de l'État. Et vous dites, je cite, « Au lieu d'engager un débat démocratique interne sur ces préoccupations, donc les préoccupations qui étaient soulevées dans cette lettre, le bureau politique de la majorité présidentielle a exclu ses partis de son regroupement politique. » Monsieur Akida, cette question n'est-elle pas embarrassante pour vous, défenseurs des droits humains, d'autant plus qu'elle semble avoir une dimension beaucoup plus politique que juridique?
Ben, les organisations non gouvernementales sont très regardantes sur toute la situation politique qui se passe chez nous. Ici, nous avons dit, il faut qu'on puisse faire respecter, n'est-ce pas, la Constitution. Et aussi, si j'insiste, notre communiqué a rappelé que la liberté d'expression, la liberté d'opinion et les droits d'égal de protection par la loi sont garantis à tout citoyen par la Constitution. C'est ce que nous avons dit, monsieur. Et ici, je dois vous illustrer un petit exemple. Dans une famille politique, il y a deux parties. Une partie qui est constante, qui veut que la Constitution ne soit pas modifiée. Vous avez suivi toutes les déclarations tonitruantes faites par certains membres de cette même famille politique dans certaines chaînes périphériques où on a même dit que on doit revoir carrément la Constitution pour qu'il y ait un troisième mandat pour le président actuel. Vous avez suivi. Ces gens-là, on n'a rien fait pour eux. Mais les autres qui ont dit il faut que nous puissions respecter les textes légaux, la charte fondamentale de notre pays.
Merci.
On les sanctionne. Mais vous voulez que les organisations puissent laisser ou passer sous silence? Vous ne savez pas que c'est grave pour la jeune démocratie que nous connaissons ici chez nous au Congo. Donc nous ne pouvons pas rester sous silence.
Merci.
Sur cette injustice flagrante que nous avons constatée. Et notre devoir le plus légitime, c'est de dénoncer. Et c'est ça que nous avons fait, monsieur.
Merci. Merci, Rachidi Akida. Honorable Gaston Moussemena, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Mbujimayi.
Galvani Placide en Mbujimayi et au Kassai Oriental. Le contraire de cette situation m'aurait beaucoup étonné, car dans la majorité présidentielle, les francs-parlers et les opinions contraires constituent un handicap. Cette famille politique confond la diversité de vues et la divergence des opinions. Or, cette diversité de points de vue constitue une richesse et un gage d'une démocratie pour les gouvernants d'un pays. Cependant, les harcèlements, les chantages, les dérives autoritaires constatées donnent la vraie image de ceux qui ne jurent que par la confiscation du pouvoir, de la parole et la liberté d'expression, et s'aimer une crise politique gratuite dont les esquisses seront les dialogues et les glissements.
Honorable Gaston Moussemena.
Bien, je comprends celui qui vient de poser la question. Il n'a pas une idée globale de la majorité présidentielle qui est constituée de plusieurs partis politiques avec des idéologies totalement différentes. Et juste parce qu'il faut parler de la situation du G7, j'aimerais tout simplement dire à tous ceux qui nous suivent que nos amis du G7 sont à leur troisième lettre. Pour vous dire tout simplement que lors de la première lettre, il y a eu débat. Lors de la deuxième lettre, il y a eu encore débat et concertation. Et même des conseils qui leur ont été prodigués. Et même lors de la troisième lettre, il leur a été demandé d'attendre pour poser cette question au dialogue, de discuter en interne au lieu de tout simplement s'adresser à la presse, de s'écarter de la charte. Donc j'aimerais que les amis comprennent qu'au sein de la majorité présidentielle, la démocratie existe bel et bien. Et d'ailleurs, cette situation du G7 est une preuve même palpable de la démocratie au sein de la majorité présidentielle. Voilà ce qu'il faut savoir, parce qu'ils sont à leur troisième coup, et chaque fois qu'ils agissaient, il y avait débat, il y avait discussion. Et il faudra aussi que l'opinion accepte que nos amis du G7, ils n'ont pas été chassés parce qu'ils disent qu'il ne faut pas changer la Constitution. Non. Nous-mêmes de la majorité, les chefs de l'État lui-même en tête, a déjà dit que nous allons respecter la Constitution. Le problème du respect de la Constitution ne se pose pas au niveau de la majorité présidentielle. Donc ce n'est pas pour ça. Nous avons une charte qui a des articles clairs. Lorsque nos amis du G7, ces quatre de cette charte, essaient de déstabiliser les institutions, de s'opposer aux décisions prises au sein des institutions, essaient de s'opposer à la vision de Joseph Kabila Kabangé, l'autorité morale, ils se sont totalement écartés de la charte. Parce que cette charte de la majorité a été faite pour soutenir la vision de Joseph Kabila.
Honorable Moussoumina, voilà lorsque vous vous rendez compte que vos partenaires utilisent la même démarche deux fois de suite, n'est-ce pas, en dépit des conseils que vous leur prodiguez, ils se focalisent sur la même approche pour la troisième fois.
Oui.
Pourquoi vous ne vous êtes pas mis autour d'une table pour essayer de réfléchir pourquoi ils insistent sur cette approche?
Si vous les avez bien suivis, ils ont dit tout simplement que le chef de l'État a demandé à son directeur de cabinet de le consulter dans le cadre de pré-dialogue ou dans le cadre de consultation que le chef engage avec les uns et les autres pour la tenue du dialogue. Voilà pourquoi nous leur avons dit, c'est parmi les matières qui seront discutées lors du dialogue, il était bien qu'ils enrichissent cette question, parce que ça les préoccupe. Nous allons nous retrouver au niveau du dialogue pour en parler. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que ils nous demandent de ne pas violer la Constitution, parce que nous-mêmes, nous sommes déterminés à ne pas violer la Constitution. Nous-mêmes, nous sommes déterminés à ne pas accepter le troisième mandat. Nous-mêmes, nous sommes déterminés à ce respect de la Constitution. Donc, c'est un faux problème. Ils ont leur calcul ailleurs.
Mais vous semblez ne pas tolérer lorsqu'on vous dit de respecter la Constitution. Vous semblez ne pas être tolérant quand quelqu'un vous dit cela.
Une évidence déjà soutenue par Joseph Kabila Kabangé, président de la République, par le secrétaire général de la majorité au Béminako, par nous tous les lieutenants Joseph Kabila. Nous ne comprenons pas comment les gens n'acceptent pas ce que nous disons.
Merci.
Attendez-nous aux actes, alors vous verrez.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kananga.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero, à Kananga, au Kasaï Central. Je suis tout à fait d'accord avec la coalition des 33 organisations non gouvernementales, car elles ont dit tout haut ce que les autres disent tout bas, et aussi en suivant les feuilletons G7 contre la majorité présidentielle, j'ai comme l'impression que c'est un recul pour notre pays en matière de démocratie, mais aussi on n'est pas loin de ce qu'on avait vécu pendant la Deuxième République. Et surtout, la majorité présidentielle doit savoir que cette affaire est en train de la décrédibiliser.
Il y a là une situation qui marque une sorte de précarité de la démocratie. Et vous regardez la réaction de nos amis des ONG, c'est une réaction qui est la bienvenue, parce que Elle permet de mettre au cœur du débat la question de la sécurité de membres du G7. Que deviennent-ils demain? Eh bien, évidemment, je crois que c'est une alerte très importante. Mais là, il y a quand même une question très importante, parce que de temps en temps, les accusations qui sont portées à l'endroit du G7, c'est que, premièrement, ils affaiblissent les institutions. Dans quelle mesure ils ont affaibli les institutions? Deuxièmement, ils ont violé la charte. Cette charte, quelles sont les dispositions de la charte qui ont été violées? Il y a là un débat interne à faire, à clarifier au niveau même de la majorité. Est-ce que, à partir du moment où une partie de la majorité, estime et où ne sont pas d'accord avec les stratégies politiques, les stratégies de conservation de pouvoir de la majorité, peut-on dire qu'en ce moment-là, ils ont violé la charte? Peut-on dire que par ce fait-là, ils affaiblissent les institutions? Il y a là un débat interne, il y a là une clarification, à mon avis, à faire au niveau de la majorité.
Professeur,
les arguments qui sont avancés ne sont pas très convaincants.
Professeur, comment peut-on apaiser le climat politique à la veille des élections?
Le climat politique devait être apaisé, à mon avis, par le dialogue. Parce que le dialogue et, à mon avis, une arme fatale sur laquelle toutes les démocraties africaines se construisent. Mais là en plus, ce que l'opposition reproche au pouvoir, c'est une récupération du dialogue pour concocter sa propre stratégie de conservation de pouvoir. Et de ce point de vue,
L'opposition semble dire non. Si le dialogue c'est pour tirer en longueur le mandat de ceux qui sont là, nous n'y allons pas. Mais à mon avis, le dialogue est l'arme fatale pour la consolidation de la démocratie. Apparemment, la situation semble se bloquer, étant donné les agendas des uns des autres.
Monsieur Rachidi Akida, comment faire pour apaiser le climat politique à la veille des élections? Vous venez de suivre les professeurs Félicien Kabamba, qui lui propose les dialogues.
Au vu de la situation sociale catastrophique que connaît notre peuple, parce qu'il ne faut pas assister toujours au discours creux, quand certains responsables politiques disent que le peuple souffre, en réalité, on ne fait rien pour le peuple. Le peuple n'a pas à manger, le peuple n'a pas de salaire. Les conseils que je vais demander au bureau politique de la majorité présidentielle, c'est que ces derniers devraient faire preuve, par exemple, de retenue, et garantir en son sein l'expression libre des opinions, notamment celles qui s'inquiètent de plus en plus de la tentative à la révision ou au changement de la Constitution. Et à l'organisation controversée des élections locales, municipales, au lieu de se concentrer sur les élections essentielles. Essentielles ici, je vois les élections législatives. Essentielles, je vois les élections présidentielles. Ce sont les élections importantes, messieurs, de 2015. Quant à parler de la charte de la majorité présidentielle, moi je pense que la charte de la majorité présidentielle doit être conforme à la Constitution et non le contraire, messieurs. Donc voilà ce que je dois vous dire pour qu'on puisse calmer la tension. Organiser les élections présidentielles et législatives nationales. Il ne faut pas aller chercher le problème là où il n'y en a pas. Chercher à organiser les élections locales et tout ça. Pendant que vous n'avez même pas 2 millions pour organiser les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Aujourd'hui, le gouvernement vient de prendre des mesures drastiques pour se permettre à désigner, soi-disant, les conseillers et les commissaires spéciaux en vertu de quel texte constitutionnel. C'est une violation encore grave de la Constitution. Et nous ne pouvons pas continuer à violer notre Constitution. Ça, c'est exacerber la tension sociale pour rien, messieurs.
Monsieur Rachidi Akida,
concentrons-nous à l'essentiel. Voilà pour calmer la tension, messieurs.
Voilà, nous sommes à la fin de l'émission, vous allez devoir conclure. Vous avez évoqué la question des élections, et les élections qui doivent être privilégiées, celles qui doivent être postposées. Et toutes ces questions ne peuvent pas faire l'objet des dialogues que vient de proposer le professeur Félicien Kabamba.
C'est votre opinion. Je pense que pour nous, les 33 ONG, d'abord, nous condamnons le ministre fermement l'utilisation par le ministre de l'Intérieur, Evariste Boshab, de sa position officielle. Ça, j'insiste, nous insistons, nous 33 ONG, alors qu'il est cadre du PPRD d'un parti politique, pour régler des comptes à ses adversaires politiques.
Merci,
ce n'est pas faisable dans une démocratie.
Merci, Rachidi. Merci, honorable Gaston Moussemena. Comment apaiser le climat politique à la veille des élections? Faut-il nécessairement passer par les dialogues?
Obligatoirement, parce que le dialogue est inverti. Mais j'aimerais revenir rapidement sur une chose. Je crois qu'on ne doit pas faire de l'amalgame.
C'est votre conclusion, parce que nous sommes à faire des émissions.
On ne doit pas faire de l'amalgame au risque de trahir son bord. On comprendra de quel côté on est. Les personnalités du G7 ont une expérience avérée de la gestion du pouvoir. Ils connaissent leurs droits. Si réellement ils sont victimes, ils savent comment saisir les cours et tribunaux. S'ils ne l'ont pas fait, respectez-les, parce que ce sont des responsables. Et il y a des opposants qui sont gardés par la police jusqu'à ce jour. Donc ce n'est pas vrai.
Merci, professeur Félicien Kabamba, pour votre conclusion.
Oui, si je parle du dialogue, je ne parle pas du dialogue comme forum. Je voudrais parler d'un dialogue qui a un caractère permanent, qui est une vie politique et qui se vit de manière permanente entre les différents acteurs politiques.
Et donc ce n'est pas les dialogues dont parle la classe politique actuellement.
Il s'agit là d'une concertation à caractère permanent.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matundu était à la technique, Alain Hirong, Berry Franklin Luchaka à la réalisation sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.